sûr, vous avez compris que quelqu'un vient de perdre sa place, c'est tout à fait le style aux Imagina. Bonjour, plus sérieusement, et merci d'être présent à nouveau. Déjà le dimanche, 14h, on sait que c'est difficile, parce que il y a ceux qui ont été à la messe et qui en sont sortis tard. L'humanité, c'est vrai que ça prend du temps, et après, plus sérieusement, on a ceux qui, quand même, en 4 jours, commencent à fatiguer, on a ceux qui ont repris leur train. Et puis il y a ceux qui profitent des repas, puisqu'on a 2 repas avec nos invités en début d'après-midi. Alors on a une salle un peu intimiste, une vingtaine de personnes, mais ça ne va pas nous empêcher de parler de notre thème, c'est-à-dire un imaginaire qui se déploie autour de villes, Paris et Londres. Pourquoi Paris et Londres? Tout simplement, j'ai prévu Paris, et puis au début, je n'avais que 3 auteurs parisiens. Alors je me suis dit, finalement, on va rajouter Londres, hein, c'est pas une si mauvaise idée. Et je découvre que, évidemment, l'auteur dont on va citer un extrait sur Londres, avait néanmoins écrit un livre sur Paris, autant pour moi, mais on a beau essayer d'en lire énormément, avec 130 invités, bon, on ne peut pas avoir lu absolument tous les livres de tous les auteurs, et vous me pardonnerez donc ce petit retard et cette petite difficulté. Ceci étant dit, Paris, Londres et d'autres villes, c'est vrai que c'est un imaginaire puissant. Londres, je vous renvoie, si vous ne l'avez pas lu, à London Bonne, qui est un texte de Michael Moorcock, de Londres, un texte magnifique, sur les soubassements d'une ville, et on peut un peu deviner ce que entend par là un auteur aussi grand dans la fantasy et la science-fiction que Michael Moorcock. Donc on va peut-être commencer par Mathieu Dénin, qui est parmi nous pour la 2e année, avec un premier roman qu'on a tellement aimé que, bien qu'il n'ait pas encore le vilain écrit son 2e roman, en tout cas il ne l'a pas fini, on l'a pas publié, en tout cas on l'a néanmoins invité parce que c'est vraiment un livre que je vous recommande, y compris si vous ne lisez pas beaucoup de romans historiques. Celui-là, d'abord il y a une sorte d'enquête policière, donc on ne s'ennuie pas une seconde. Certes Sud, c'est quand même une belle maison de littérature pour ceux qui aiment le style et l'écriture. Et puis, c'est quand même un vrai roman historique, il y a de l'aventure, et finalement, on se dit qu'un vrai roman historique, ça nous passionne parfois autant qu'un roman de fantaisie. Alors, Saltarello, c'est une petite danse, hein, si je ne me trompe pas.
C'est ça, c'est une danse qui vient d'Italie, et qui était très populaire à la cour du roi de France, au XIVe siècle.
Petite description, on est dans Paris, février 1358, le pendu. Après avoir traversé l'île de la Cité, Oscu et Taillevent empruntèrent un 2e pont, le pont aux Meuniers, qui débouchait rue du Grand Hurleur, derrière le Grand Châtelet. Ils s'étaient donc retrouvés rive droite, sans même avoir pu apercevoir la Seine. En effet, la vue sur ces 2 ponts était constamment bouchée par des bâtiments, que ce soit des fortifications, des habitations ou des commerces. Cette ancienne construction en bois était l'un des 2 ponts, avec celui des Changeurs, qui reliait le Grand Châtelet au palais de la Cité. Ces 2 ponts étaient relativement semblables et proches l'un de l'autre. D'imposants troncs de chêne régulièrement plantés dans le lit de la Seine soutenaient une large soutenure en bois qui craquait et gémissait au gré du vent ou des remous de l'eau. D'abord dédiés à la circulation des marchandises et des personnes, les ponts avaient été progressivement augmentés d'abris, d'ateliers puis d'habitations à plusieurs étages. Les commerçants s'étaient ensuite naturellement regroupés en corporations. Ainsi, les monnayeurs, les fondeurs et les changeurs officiaient sur le pont amont, les boulangers et les meuniers sur le pont aval. Sous leur apparente tranquillité et au-delà de leur position stratégique au cœur de Paris, les commerces installés là possédaient un avantage technologique indéniable. Des roues à aube travaillaient continuellement sous le tablier et la force hydraulique dûment captée fournissait une énergie constante et fiable permettant d'entraîner meules, marteaux et soufflets. Ces éléments lourds transmettaient des vibrations sourdes en permanence à la structure du pont. Ainsi, la plupart des gens qui l'empruntaient se dépêchaient volontiers. En effet, une étrange impression de tremblement et de grondement provenait des imposantes pièces de bois, des moulins à eau fichés sous le tablier du pont. Alors, Mathieu Dénin, ce Paris, c'est plus notre Paris à nous?
Non, là on est clairement 650 ans en arrière. Mais on se rend compte en fait avec les noms des rues, certains bâtiments qui sont décrits, que finalement il y a encore de quoi voir des chapitres complets d'histoire quand on se promène dans Paris. Et moi, la façon dont je travaille en général, c'est avec des plans, et j'adore me plonger dans les plans de Paris pour non seulement les plans d'époque, mais aussi les plans d'aujourd'hui pour imaginer comment ça a dû être.
Les démons de Paris, là, la ville est dans le titre. Jean-Philippe Depote, une autre vision de la capitale. Sur la rive droite, c'était hors d'affluence. Comme deux rigoles parallèles, les quais et la rue de Rivoli drainaient le flot désordonné des gens qui vont quelque part. Ici, un cabriolet croisait une charrette à mules. Là, un boléro d'Alpaga ignorait un tablier de matelassière. Avec le soir, le peuple de ceux qui gagnent se dispersait au profit de ceux qui dépensent. Posté à la tête du pont, un joueur d'orgue s'anima à l'arrivée du couple. « Pour la musique, mesdames !» Lorsqu'il s'avisa que la robe noire était une soutane, il partit d'un grand rire incongru qui s'ajouta à la cacophonie de la musique mécanique et de la monnaie qu'il secouait dans une timbale en fer. « Pardon, mon père !» s'exclama-t-il sans interrompre le concert. « Une pièce pour l'artiste, vous jouez une messe ou une romance ?» Avec ce dernier trait d'esprit, son fou rire s'envola de plus belle. Joseph pressa le pas pour tourner le dos au plus vite au braillard et à sa gueule carrée. Nous ne devrions peut-être pas nous tirer par le bras, Lucie, il y a du monde ici. Pourquoi on a toujours fait comme ça? Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que pensent les gens? Sans lâcher son bras, elle sautilla deux fois. Joseph ne put s'empêcher de vérifier si on le regarde. Sur les regards, à droite, à gauche, dehors. J'y arrive, pardonnez-moi, je reprends. Sans lâcher son bras, elle sautilla deux fois. Joseph ne put s'empêcher de vérifier si on les regardait. À droite, à gauche. Derrière, le chanteur limonaire reprit la rigolade en les voyant se tourner. Au-delà, sur le pont, un homme lisait le journal dans le cercle d'un bec de gaz. Un type au chapeau melon qui attendait peut-être quelqu'un. Drôle d'endroit pour lire les nouvelles. Lucille le tira derrière elle. Maintenant, il pouvait voir la silhouette grave de la rotonde du bazar de l'hôtel de ville. Joseph repensa à la jeune fille aux yeux de sable. Il imagina Lucille couchée sur le dos par terre devant ce magasin, la mâchoire arrachée. « Tu sais, Lucille, je pense à une jeune fille, la dernière avec qui j'ai discuté ce soir. Elle est peut-être encore allongée sur le trottoir là-bas. Tous les corps n'ont pas été enlevés ?»« Si, bien sûr. Elle était à la morgue avec les autres, mais elle me disait être couchée sur le sol, là même où elle était tombée. Les morts violentes sont les pires, tu le sais bien. Elle n'y était pas du tout préparée. Alors, elle n'a même pas pensé à se relever et elle est restée tendue sur le dos pendant des heures. C'est Paris, mais c'est Paris aussi après un attentat. »
Oui, c'est tout le principe du livre où le personnage principal, le fameux curé dont on parle, la soutane, en fait voyage en permanence, comme il a le pouvoir de dialoguer avec les défunts, il voyage en permanence entre le Paris réel qu'on décrit là, et le Paris des morts, et de l'au-delà.
Stéphane Tamagnon. Crime, les pilleurs de cercueils. Alors c'est une série, mais chaque roman est une histoire indépendante. Hein.
Oui,
les trois premiers, en fait, il y aura trois tomes au moins, et les trois premiers tomes formeront un cycle. En fait, même si à chaque fois c'est une enquête qui peut se lire de manière indépendante, les trois tomes formeront un cycle par rapport effectivement aux relations entre les personnages.
Traqué. Mathieu ignorait de quelle manière, mais l'homme au chapeau melon l'avait retrouvé. Il semblait posséder une sorte de sixième sens. Pourtant, l'adolescent avait pris ses précautions et n'avait utilisé qu'une image spectrale de lui-même, projetée à l'unique intention d'Hector Krim. À l'exception du détective, personne n'était censé la détecter. Malgré cela, le colosse avait tout de même senti sa présence, pareil à un chien flairant un os. C'était incompréhensible. S'éloignant à grands pas des rues fréquentables, Mathieu coupa par Shaftesbury Avenue et s'enfonça pour l'immense taudis de St. James. Le slum avait pour particularité de se situer en plein cœur de Londres, voisinant avec les beaux quartiers. Ses habitants le surnommaient Terre Sainte. C'était avec certitude un des endroits les plus dangereux de la ville, un îlot de criminalité où la police ne s'aventurait presque jamais, et pour cause. Les bâtisses sombres qui s'y élevaient étaient les remparts d'une citadelle imprenable. Le malfrat qui se cachait dans son réseau de ruelles délabrées ne courait quasiment aucun risque. Le malfrat qui se cachait dans son réseau de ruelles délabrées ne courait quasiment aucun risque d'être débusqué. Les maisons, les caves et les cours communiquaient entre elles grâce à des trappes et des goulets percés dans les murs. Même les toits servaient de refuge, reliés par des passerelles instables. Un véritable labyrinthe. C'était vraiment Londres de l'époque, Stéphane Tamagnon.
Alors,
c'est un Londres imaginaire.
pour cette partie-ci, c'était le Londres de l'époque. En fait, la particularité de mon Londres, on va dire, c'est de mêler justement le Londres historique et des aspects du Londres historique avec certains éléments qui vont s'y raccorder, notamment quelques, il y a des touches steampunk en fait qui se raccordent avec ce Londres-là. Donc dans la description en fait et dans les lieux et notamment les oppositions entre les quartiers, entre l'East End et l'West End en particulier, on retrouve les mêmes similitudes que le Londres de l'époque. Et j'y ai ajouté voilà quelques éléments et surtout c'est surtout un Londres fantastique, surtout par la population en fait, par les créatures qui la peuplent. Donc il y a quelques éléments qui modifient un peu la structure du Londres de l'époque, mais pas tant que ça finalement. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de mêler à la fois des éléments fantastiques qui venaient s'imbriquer dans un Londres historique dans lequel on pouvait se reconnaître, si on connaissait un peu le Londres de l'époque, justement, on pouvait reconnaître des lieux et des... donc, par exemple, là, effectivement, ce type de taudis, effectivement, qui devenait des refuges pour les malfrats, existait véritablement. Et c'était un lieu où je pouvais justement implanter mon univers un peu fantastique, en fait.
Les pierres de cercueil, pour donner une petite idée à nos auditeurs, c'est quoi exactement?
Alors, les pilleurs de cercueil, d'abord, c'est une référence à Stevenson. Et le livre en lui-même est d'ailleurs une référence à un hommage plutôt à la littérature fantastique du 19e siècle. Donc voilà, Stoker, Mary Shelley, Stevenson.
Un peu l'origine des grands thèmes, le vampire.
Tout à fait, voilà. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est effectivement que tous les auteurs de cette période ont quasiment tout inventé. C'est-à-dire tous les grands thèmes qui sont repris constamment. Était déjà là à ce moment-là. C'est aussi un hommage à l'interprétation justement de ces grands textes, et en particulier le cinéma Universal des années 30, voilà, enfin jusqu'à la Hammer, enfin ce type de cinéma. Et c'est aussi un hommage clairement avoué à Conan Doyle. Et voilà, j'ai essayé de mixer en fait sans me soucier forcément des limites de genre justement, c'est-à-dire steampunk, fantastique, fantasy urbaine, enfin. C'est un peu tout ça. C'est aussi très historique parce qu'il y a vraiment, on peut apprendre des choses vraiment sur le Londres victorien à travers le livre. Et c'est un mélange en fait d'un peu tous ces thèmes-là. Moi, j'aime les récits historiques, j'aime le fantastique, j'aime le steampunk, j'aime la science-fiction. Donc, j'ai essayé en fait de mêler un peu tous ces thèmes-là dans ce roman.
Ne pas se donner de barrière de genre.
Voilà, tout à fait. C'était vraiment l'objectif et donc c'était cette envie justement de mettre tout ce que j'aime depuis, enfin tout ce qui m'a nourri depuis l'enfance, l'adolescence, et c'est une sorte de Madeleine de Proust, voilà. C'est une manière de me replonger dans tout ce que j'ai toujours aimé et de mettre un peu tout ça là-dedans en fait.
Bon, on va quitter un petit moment là, on va retourner à Paris. Vous aimez la viande? Si oui, il faudra le cœur bien accroché à l'époque. Alors que les deux amis continuaient de discuter en s'approchant de l'entrée principale de la boucherie, les cris des animaux qu'on égorgeait plus ou moins rudement agressaient au moins autant que l'odeur de sang caillé et celle des tripes. Durant leur promenade depuis la Seine, après être passés des odeurs de graisse animale à la selle peu fraîche de la marée, les voilà qui étaient à nouveau assaillis par les effluves pestilentiels des tripiers, des écorcheurs, des écarisseurs et des boyaudiers. Même si leur situation de bourgeois leur permettait d'emprunter le haut du pavé, ils étaient tout de même obligés de fouler les tas d'ordures qui s'amoncelaient dans les rues et ils ne pouvaient éviter les projections de boue lorsque les charrettes les dépassaient. Leurs chausses en étaient noires de grâce. L'imposant porche de la grande boucherie du Châtelet traduisait la richesse et la puissance de la corporation qu'il abritait. Au-dessus de la colonnade qui donnait accès à l'intérieur du bâtiment, un fronton à l'antique comportait une statue de l'apôtre Saint-Barthélemy tenant le couteau de son martyr et la dépouille de sa propre peau, et assurant ainsi la protection des bouchers et des tanneurs. C'est vraiment le Paris de l'époque, là aussi.
Oui, la corporation des bouchers était vraiment extrêmement puissante. C'était les bourgeois qui faisaient un petit peu la pluie et le beau temps dans Paris au XIVe siècle. Les bouchers et, je dirais, les navigateurs. Il ne faut pas oublier que l'emblème de Paris, encore aujourd'hui, c'est un bateau qui est celui de la Ligue hanséatique parisienne. Qui n'a rien à voir avec la Ligue hanséatique du Nord, des pays scandinaves et germaniques, même s'ils faisaient du commerce entre eux. Mais ça prouve bien en fait que les marchands, les bouchers étaient vraiment extrêmement puissants. Ils ont même, à certaines occasions, quasiment renversé le pouvoir 2 siècles avant, en 1789.
Là, on va venir dans une époque qui est plus ambiguë, finalement, parce que là, on arrive à situer entre les villes et les époques, 19e siècle, XXe, et puis pas tout à fait le même que celui qu'on a connu. C'est une sorte d'uchronie quelque part, fantastique. Enfin, c'est un mélange aussi des genres. Je me demande si, à force de lire un certain nombre d'ouvrages, il n'y a pas un nombre d'auteurs, peut-être de votre génération, qui se sont affranchis justement de ces limites. C'est-à-dire, vous n'êtes ni tout à fait dans le fantastique, Jean-Philippe Depop, ni tout à fait dans la science-fiction, même s'il y a de l'uchronie. Quelque part, vous vous affranchissez, j'ai l'impression, un petit peu des limites étroites de genre et de collection, comme on voyait il y a encore 5 ou 10 ans.
Oui, en vérité, je ne me suis strictement jamais posé la question quand j'ai commencé à écrire le livre. J'ai juste raconté l'histoire que j'avais envie de raconter. Et quelque part, ça m'a même fait un peu plaisir de constater que j'en mettais les libraires qui ne savaient pas où mettre le livre et qui parfois même le mettaient dans 2 rayons à la fois, ce qui est vraiment une bonne aubaine pour un nouvel auteur.
En général, ils se trompent et le mettent dans le mauvais. Mais 2 à la fois, là, ça nous laisse 2 fois plus de chance de trouver un public. C'est vraiment sympa. Enfin, Albert, Ruffard Fallet, c'est des titres vraiment, des fois, les auteurs. Franchement, on n'appelle pas une rue Ruffard Fallet. Ah, une question qui m'a traumatisé notre invité.
Oui, en fait, tous les noms de rue quasiment sont des jeux de mots sur d'authentiques noms de rue parisiennes. Rue Farfadet, c'est la rue Marcadet en fait. Et donc le quartier Marcadet-Poissonnier est devenu Farfadet-Poissonnier. Je s'en ai farci, hein. Je trouvais ça rigolo.
Un monde décalé en quelque sorte.
Avec un monde, ouais.
Beaucoup d'humour aussi.
J'ai essayé. Après, je ne garantis pas que ça plaira à tout le monde. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire un monde à la fois familier, proche d'une autre, et en même temps un peu décalé, un peu surnaturel, un peu étrange. Quoi.
Le personnage principal, c'est pas encore un détective privé ?
C'est un détective privé qui a toutes les stars du détective privé, alcoolique, qui aime trop la bonne chair, les femmes et l'alcool, et qui porte un chapeau melon. Enfin, c'est vraiment la figure type du privé dans les polars.
Eh bien, un petit extrait peut-être.
J'aimais ces moments-là. Juste s'asseoir et attendre. Des heures entières parfois, qu'importe. Je respirais l'air du temps, je buvais, gentiment bercé par la rumeur de la ville. Cris, rires, claquements de fouet, sabots sur les pavés, souffle rauque des moteurs à vapeur, le rythme des rues emplissait mes oreilles. J'étais un spectateur indolent, serein, ivre souvent. Je me régalais des longs cortèges de voitures, hippomobiles et automobiles à la queue leu-leu, cochais des chauffeurs donnant de la trompe en s'insultant copieusement au milieu des nuages de vapeur. Ou bien je me laissais emporter par le défilé des piétons, masse indistincte marchant au pas cadencé, 1000 visages par seconde. C'était toute la mosaïque des peuples du royaume qui défilait devant moi. À moins que le nez en l'air, je ne suivisse le balai aérien des nombreux dirigeables qui survolaient Paname en provenance d'ailleurs et de partout, les flancs chargés de biens ou de voyageurs. Mon regard vadrouillait sans but. Aussi mobile que j'étais immobile, libre d'attache, il se fixait à l'occasion sur une silhouette, une attitude ou une scène qui impressionnait durablement mes rétines. Ce pouvait être l'étal coloré d'une marchande des 4 saisons vantant sa marchandise à la cantonade, le déhanché canaille d'un étudiant en goguette faisant tinter la monnaie dans sa poche, ou l'élégante lavalière multicolore d'un superbe dandy plein de morgue, jeune dieu descendu parmi les mortels. Ce pouvait être aussi dans un parc la course d'un cerceau véloce qui me captivait soudain. Parfois j'étais le témoin ému d'un drame urbain, tel la mort de ce jeune enfant passé sous les roues d'une calèche. On ne trouvait pas les parents, l'ambulance tardait, c'est qu'elle était encore attraction animale à l'époque, et le sang s'écoulait en fine rigole dans le caniveau. Je me souviens du visage sans vie du garçon, de ma colère devant la grosse trogne luisante du cocher, un laquais en livrée qui ne pensait visiblement qu'aux ennuis qu'allait lui valoir cette histoire.
Voilà, on est plongé dans un Paris évidemment rêvé, un Paris de fantaisie. De fantaisie urbaine, cette fois-ci, on n'est plus dans la fantaisie moyenâgeuse, la fantaisie des dragons, on est complètement plutôt chez Megan Lindholm quelque part, même si votre monde ne ressemble en rien. C'est vrai que l'humour en fantaisie, on n'est pas tant que ça. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est votre façon de voir la vie et d'être, ou est-ce que vous êtes dit finalement, les lecteurs, par les temps qui courent, ils veulent passer, alors on va essayer de les distraire. Je sais pas, j'ai du mal à faire les choses sans les faire en rigolant, parce que j'aime bien rire, en fait. Je sais pas, j'ai tendance à parler un petit peu comme j'écris à l'occasion. Je sais pas, franchement, ça m'est venu comme ça, j'ai pas réfléchi. En fait, je me retrouve très bien dans ce que dit Stéphane et en même temps dans ce que dit Jean-Philippe à la fois, parce que j'ai mis tout ce que j'aimais sans me soucier de genre, de rien. J'ai mis de l'humour, j'ai mis du steampunk, j'ai mis de l'Uchronie, j'ai mis un petit peu de tout ce qui m'a nourri aussi. Et puis, pareil, j'ai raconté l'histoire que j'avais envie de raconter à la façon dont j'avais envie de faire. Les démons de Paris, sur les popotes, là, on parle de Paris, mais c'est pour vous faire sentir plus le climat du roman. Et là, il se tira par la manche. Ne t'arrête pas, nous ne devons pas nous faire remarquer. Cette foule, c'est peut-être notre chance. Et ils plongèrent main dans la main dans le flot turbulent. Tantôt happé en un sens, tantôt lutte. J'ai du mal, je suis un peu fatigué, pardonnez-moi. Tantôt happé dans un sens, luttant l'un temps d'après contre un courant qui les ramenait à leur point de départ. Tous les morts de Paris étaient là. Ils s'étaient donné rendez-vous à la fête. Les vieux, les enfants, les dames et les marchandes, les bourgeois, les cols bleus. Parfois, ils croisaient un costume vide, un vivant qui passait sans rien voir, un haut de forme qui prenait l'air du soir avant de rentrer chez lui. Sentait-il dans son monde couler autour de lui le souffle de la farandole des démons ? Pardon, de la farandole des fantômes. Les démons, Adramelech et les autres, avaient disparu, délayés par la marée humaine. Après un moment, Héloïse et David s'arrêtèrent non loin du pied de l'Arc de Triomphe. Comme deux rochers au milieu d'un torrent. « Qu'est-ce que tu fais ? » crie David en le tirant par le bras. « Viens, il faut continuer. »« Non, attends. Nous devons réfléchir. » Les anges étaient là, partout. Des pentes silencieuses plantées au hasard dans la foule, dans leurs uniformes de basque impeccables. Ils observaient. Mais pas seulement. Héloïse se rappela les paroles de David. Ils rayonnaient. Comme autant d'aimants dopés au bonheur de synthèse, ils attiraient, canalisaient en douceur, la limaille insouciante des bienheureux. Vers l'autre bout de la place, vers les Champs-Élysées. « Bon Dieu, David, il ne faut pas y aller. Nous devons trouver un moyen de nous sortir de là. » Mais David ne l'écoutait plus. Il avait repris sa posture de Christ en croix, bras tendus, le visage tourné vers le ciel, béat. « Le soleil, Héloïse, regarde, il revient pour nous. » C'est à la fois drôle et très effrayant, finalement, Jean-Philippe de Pot. Qu'est-ce que c'est que ce Paris où les morts et les vivants se croisent sans se voir ?
En fait, c'est un peu toute l'idée du roman, c'est de le personnage principal, Joseph, essaie de profiter de son talent de pouvoir communiquer avec l'au-delà pour, en fait, à la manière des grands moines scientifiques comme le moine Mendel et ses petits pois et les lois de la génétique, et essaie de profiter de ça pour bâtir une cosmologie des enfers, essayer de découvrir les lois physiques des enfers, en fait, et c'est ça qui va le mener. En fait, qui va le mener contre sa volonté à propulser un de ses amis dans ce monde de l'au-delà. Et en fait, pour revenir aux descriptions de Paris et à l'utilisation de Paris dans le roman, moi, il se trouve que quand j'ai écrit ce roman, j'étais loin de la France, j'étais depuis 4 ans au Japon, et peut-être que justement cet éloignement de Paris m'a permis de développer une vision très fantasmée, en fait, de Paris. À l'époque, j'étais un grand fan du Moulin Rouge de Baz Luhrmann, et c'est vraiment ce Paris des décors de théâtre qui allait très bien justement entre un Paris d'un côté, le Paris réel de l'époque, mais de la belle époque, qui est déjà un Paris un peu fantastique, et le Paris du monde des morts, qui est vraiment vu comme un Paris de couleurs étranges et d'odeurs bizarres.
D'ailleurs, la couverture, je la trouve très réussie de votre édition Folio SF. C'est au premier plan un diable cornu, et derrière le portrait de Lénine, il y a une raison dans l'histoire. Lénine passe dans le roman. On se demande qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde fantastique, mais vous avez réussi à nous en faire un Lénine crédible, et on y croit, on a l'impression que c'est la vraie histoire.
Oui, puis on découvre tout à la fin du roman ce que j'avais derrière la tête en introduisant Lénine au départ. Je l'ai découvert, mais c'est vrai que même s'il n'est pas très présent dans le roman, il a une importance capitale.
Mathieu Desnains, votre Paris à vous, c'est vraiment un Paris historique, à la différence de vos petits camarades qui, sur Londres et Paris, se permettent des libertés ou des va-et-vient entre le réel et la fiction. Votre Paris à vous, c'est un Paris vraiment bétonné, appuyé sur une documentation, et même, on en avait parlé l'an dernier, qui a bénéficié du regard éclairé d'une universitaire spécialiste de cette époque.
Tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'était important, en fait, parce que on est tellement loin de notre siècle que c'est très difficile d'imaginer ce que ça a réellement pu être la vie à Paris en 1350. Et donc, j'ai voulu, par le vocabulaire descriptif, par les tenues, par la façon dont les gens s'exprimaient, par les rapports sociaux entre les différentes catégories sociales, entre le clergé, les nobles, les bourgeois, etc., décrire quel pouvait être en fait ce bouillonnement intellectuel qui régnait au Moyen-Âge, un Moyen-Âge qui n'était pas si sombre que cela finalement.
Vous avez aussi dans votre roman des personnages historiques. Alors vous êtes là, pareil, vous ne faites pas du tout le même usage que Jean-Philippe Despotes, mais on ne peut pas révéler l'usage qu'il en fait, parce que bon, sinon ce serait un peu révéler la structure qui au début est un peu secrète, la structure du roman, en tout cas son aboutissement. Dans votre façon de traiter l'histoire, on y trouve quand même des personnages qui ont parfaitement existé. Je pense aussi à Nicolas Flamel, par exemple.
Oui, c'est le vrai Nicolas Flamel, dans la mesure où on peut savoir des choses sur lui, parce que c'est un personnage qui a été fortement fantasmé, surtout au XVIe siècle, et puis plus récemment avec la saga Harry Potter. Tout ce qu'on sait de lui, en fait, ne tient que sur son épitaphe, qui est au musée du Moyen-Âge à Paris. C'est la seule trace qu'on a, à part évidemment sa maison qui est encore debout et qui est la plus ancienne maison, construction civile à Paris. Moi, j'ai voulu en faire un personnage crédible, un libraire, voilà, qui vivait sa vie et qui était intéressé, mais je dirais à titre personnel, par tout ce qui était littérature alchimique.
Petit extrait. Alors, les noms des personnages aussi. Oscu avait complètement abandonné son décompte généalogique des rois de France. Du coup, il avait décroché du récit de son ami pour se concentrer sur son breuvage, tout en se grattant mollement l'entrejambe. Flamel, quant à lui, suivait avec une attention aiguë l'étrange leçon d'histoire. Tout cela ne colle pas, se disait-il, il parle de ces événements comme s'il s'en souvenait personnellement. Si bien de la croisade de Louis le Jeune dont il parle, Louis le Jeune et Aliénor d'Aquitaine, c'était, voyons, il y a plus de 200 ans. Il doit avoir le cerveau asséché à force de s'imbiber de lecture. Il s'imagine sans doute avoir vu ces événements de ses propres yeux. Le pauvre diable ne sait plus ce qu'il dit. Changeons de sujet pour revenir à une conversation normale. Pardonnez ma curiosité, s'aventura Flamel, mais vous habitez ici en permanence, je veux dire seul avec vos livres et vos vaches. Vous me décevez, Flamel, répondit-il. De votre part, j'aurais espéré mieux de votre curiosité. Je ne sais pas, moi. J'aurais cru, connaissant votre réputation, que vous m'interrogeriez plutôt sur mes dernières lectures. J'allais y venir, fit Flamel avec un sourire de connivence. J'avais déjà remarqué votre très belle copie de la poétique d'Aristote, là. Ah, celui-là, oh oui, en effet, je ne pourrai jamais me séparer de ce livre. C'est un peu mon valet-mécoum, voyez-vous, et puis il a une valeur sentimentale. Pour tout dire, c'est... Cela reste entre nous, n'est-ce pas? Enfin bref, c'est Maître de Molay qui me l'a offert juste avant, vous savez, ces horribles événements. Je vous dis cela, attention, je n'étais pas templier moi-même, mais comment dire, c'était un grand ami. Mais vous avez sans doute aussi dû remarquer cette autre merveille. Celle-là est plus récente. Je viens de l'acquérir à un marchand lombard. C'est un recueil de nouvelles d'un certain Giovanni Boccaccio. Boccaccio, on dit en français ?
Les livres ont beaucoup d'importance dans Saltarello. C'est un peu le fil conducteur de l'ensemble du récit. Les livres. Donc, je me suis amusé un petit peu à retrouver quelle pouvait être la bibliothèque des puissants. Il ne faut pas oublier que les livres au XIVe siècle valaient à peu près le prix d'une maison. Donc, seuls quelques très riches et quelques très privilégiés avaient la fortune suffisante pour se faire recopier. Donc, ils étaient très rares et ils étaient, ils avaient une valeur inouïe aux yeux de ceux qui pouvaient les manipuler.
Vous, votre pari, c'est pas celui des livres, mais plutôt de la communication de l'époque et les prêtres en soutane. Alors pourquoi avoir choisi parmi vos personnages principaux, alors que c'est quand même pas un personnage d'une grande modernité, un prêtre en soutane? Et un prêtre en soutane un peu étrange, même aux yeux de sa hiérarchie, puisqu'il parle avec les morts.
En fait, mon idée initiale, c'était de développer dans un contexte historique, donc le contexte historique de la Belle Époque, des personnages qui avaient des espèces de pouvoirs surnaturels, des fameux implex, des mystérieux implex du livre. Et donc, j'étais intéressé par ce personnage qui qui avait le pouvoir de dialoguer avec les défunts. Et je cherchais en fait une façon de... à ce que tous ces pouvoirs soient intégrés dans la vie quotidienne de ces personnages, sans qu'eux-mêmes, à la limite, les considèrent comme des pouvoirs paranormaux. Et tout naturellement, quelqu'un qui parle avec des défunts, j'ai tout de suite pensé à un prêtre, hein, en me disant que qu'est-ce qu'on pouvait faire d'un pouvoir comme ça dans la vie civile. Et en fait, le fait d'accompagner les défunts dans leur premier pas dans au-delà était la façon la plus naturelle d'utiliser ce pouvoir. Le but était que ce pouvoir passe tout à fait inaperçu aux yeux du personnage lui-même. Bien sûr, autour de lui, on en fait des merveilles, et il est en première page des journaux, mais lui trouve ça tout à fait naturel.
Et ce pari, c'est le pari des vivants, le pari des morts, le pari... il y a deux paris, en fait, en quelque sorte. Systématiquement, c'est construit en alternance.
Oui, d'ailleurs, le roman est construit entièrement comme ça, c'est-à-dire d'un chapitre sur l'autre, donc sauf au début, il faut que ça se lance, et puis une fois que c'est parti, on passe son temps à alterner entre deux histoires. Et ça aussi, c'est vraiment la genèse du livre, c'est-à-dire que c'était vraiment un livre basé sur une structure de deux histoires qui se croisent en permanence, où on sent que, depuis le début, on sent que c'est un peu la même histoire, les personnages se croisent sans vraiment interagir. Et pour enfoncer tout ça dans des difficultés de deux récits parallèles qui s'enfoncent dans les difficultés, et toutes les difficultés peuvent trouver leur solution dans une scène apocalyptique dans les métros de Paris.
Pas en dire trop, il faut laisser le plaisir de découvrir ce livre tout à fait étonnant. C'est le premier roman de Jean-Philippe Despotes, qui vient d'en publier un autre, hein, chez De Noël tout récemment, mais on en a parlé dans d'autres cafés littéraires. Et c'est ce livre qui, en quelque sorte, en a fait d'emblée un auteur, alors que c'était un total inconnu. C'est ce qui l'amène à être deux années de suite aux Imaginales, et on en est vraiment ravis. Vous lisez vraiment très bien, vous faites honte, Raphaël Albert. Allez-y, un petit extrait, Paname, on y est vraiment. Paname vivait dans la crainte de la prochaine attaque. Tout le monde ne parlait plus que de ça. Qui, pourquoi, combien de morts encore, que faisait donc la police ? Gormont, le préfet de la dite police, donnait régulièrement des conférences de presse qui s'achevaient toutes par un vague discours que je vous résume. Nous faisons tout notre possible, les coupables seront pris et punis avec toute la sévérité requise. Pieux souhait qui ne trompait personne. L'enquête piétinait. À peine si l'on avait une idée de l'identité du ou des responsables. La version officielle voulait que ce soit un groupuscule anarchiste, une bande de républicains extrémistes aspirant à renverser le régime ducal. Plusieurs lettres de revendication en ce sens étaient parvenues au palais des ducs. Mais ces histoires d'anarchistes n'avaient rien pour satisfaire la rue. Trop banales face aux terrifiantes manifestations élémentales. Elle voulait du mystère, la rue. Elle voulait du sensationnel, de l'effroyable. Généralement, lorsqu'il était question d'effroi, on accusait la cour des miracles. Les monstres et les pervers qui la peuplaient étaient capables du pire, rappelait-on. Mais les formes de leur indéniable cruauté étaient si coutumières, si bien ancrées dans les esprits que... en l'occurrence, personne n'eut même l'idée de les soupçonner. La cour n'avait jamais versé dans le crime de masse, et il paraissait évident à tout le monde qu'elle n'avait rien à voir dans tout cela. Ce n'était pas son style, tout bonnement. Les plus folles rumeurs se mirent donc à circuler, propagées par tout ce que Paname comptait de farfelus, de théoriciens du complot et autres assimilés prophètes, génération spontanée ressuscitant à chaque ébranlement du royaume. Les plus déjantés voyaient dans les attentats les prémices d'une invasion venue d'un ailleurs imprécis, d'au-delà du ciel, l'espace, le temps ou le coin de la rue. Les plus raisonnables se contentaient d'accuser le gouvernement de vouloir instaurer une dictature par la terreur. Plus sobrement, les républicains cédaient à leur paranoïa naturelle et clamaient à qui voulait les entendre qu'il s'agissait d'une manœuvre visant à les discréditer auprès de l'opinion publique. Chacun sa petite chapelle et son petit credo, en somme. Beaucoup d'humour, de causticité et... quand même, Raphaël Albert, c'est aussi un cas, on est en pleine fantaisie, on voit la pétillance de votre style et de votre histoire, mais c'est quand même aussi un regard sur le monde d'aujourd'hui.
Ben, oui, c'est ce que je disais, j'ai essayé de faire un monde à la fois proche, et proche, familier et un peu décalé par l'intrusion du fantastique, des créatures de féerie, etc. Mais oui, j'en profite aussi pour brocarder un petit peu nos travers, les travers de notre vie politique, etc. Bon, c'est pas le thème du livre, hein, c'est en passant comme ça.
Ça fait plaisir, puis ça fait plaisir au lecteur par les temps qui courent.
Ben, j'espère.
un autre ouvrage de Stéphane Tamagnon. Cette fois-ci, on va un peu quitter Londres, parce que quand même Paris, c'était quand même... Puis après tout, c'est notre capitale. L'ombre de la couronne. encore un titre quand même très britannique, non? Même si cette couronne, c'est plutôt une couronne française.
C'est la couronne, en fait, les quartiers populaires autour de
Paris. Ah bon, c'est les quartiers populaires autour de Paris, en fait,
la couronne. D'accord, la couronne parisienne.
Voilà, ouais,
c'est la couronne. À la Concorde, là par contre, on sait où on est. Pierrot n'en croyait pas ses yeux. Il l'avait bien sûr déjà vu de loin, mais là, si près, la porte monumentale. Elle ouvrait sur les mystères de l'exposition universelle. Le gamin l'épousa du regard, s'imprégnant de chaque détail. Une imposante coupole reposait sur des arches en nid d'abeilles qui abritaient une assemblée de 18 guichets coiffés de drapeaux de toutes les nations. De chaque côté, des murs latéraux décorés de fresques se terminaient par de grandes colonnes. Le gigantesque monument s'élevait vers le ciel comme un bras tendu vers le soleil. Pierrot mit sa main en visière pour mieux en distinguer le sommet. Une élégante sculpture, posée sur un piédestal, surmontait l'arc principal. Un hommage à la liberté. Le garçon s'avança un peu, se plaçant entre les quatre piliers encadrant la porte. Il supportait la mâture d'oriflamme aux couleurs de la France. Les étendards s'accordaient avec les trois nuances choisies pour parer l'édifice, le bleu, le blanc et le rouge. Des arbres habillés de fruits d'or et de lumière accueillaient les visiteurs. Un miracle de la fée électricité. La foule se pressait, nombreuse, impatiente de participer aux réjouissances de cette première journée. Des fiacres arrivaient de tous les coins de la ville, déversant leur flot de passagers. Des bourgeois et leurs épouses faisaient la queue pour accéder au guichet, mais aussi des ouvriers endimanchés qui fanfaronnaient au bras de leur conquête. Une fois franchi le seuil de l'exposition, on disait que tous les rêves se réalisaient. Visiter l'Orient, l'Afrique, toutes ces terres que possédait la France et sur lesquelles aucun d'entre eux ne mettait jamais les pieds. Les pavillons coloniaux du Trocadéro leur permettraient d'approcher un peu cette réalité lointaine. Ainsi, les curieux se délecteraient-ils des trésors du Tonkin, de l'Algérie ou du Dahomey. Ils se murmuraient qu'il était possible de se faire photographier en compagnie de plusieurs des bons sauvages peuplant ces contrées éloignées. Frissons, garantis. Une époque, hein, le 19e siècle, le colonialisme, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire.
En fait, là on est en 1900, donc on est au moment de l'exposition universelle parisienne, enfin cette exposition universelle parisienne, et ce qui m'intéressait ici, c'était le contraste justement entre ces quartiers populaires ouvriers, donc puisque mais les héros de ce livre en fait sont des ce qu'on appelait les Apaches, hein, c'est-à-dire les gamins des rues, hein, qui vivaient souvent près des fortifications. Un des plus célèbres, c'est l'imagerie populaire, c'est Manda, c'est Casque d'or, enfin c'est cet imaginaire-là, et donc il y avait donc, ces Apaches, ces gamins qu'on avait surnommés les Apaches à cause de leur violence aussi, hein, puisque par exemple un exemple de leur comportement, c'était s'ils capturaient quelqu'un d'une bande adverse, puisqu'il y avait plusieurs bandes en fait, qui s'affrontaient, qui avaient leur propre territoire, c'était arracher un œil ou couper le nez d'un des gamins de l'autre bande. Donc ils avaient une vie très difficile, il y avait ces quartiers effectivement avec la misère qu'on pouvait retrouver dans ces quartiers. Et moi ce qui m'intéressait dans ce Paris-là de 1900, c'était justement l'opposition entre ces quartiers ouvriers, les conditions de vie de ces Apaches, et à côté de ça le faste, le luxe de cette exposition universelle qui s'affichait dans Paris, une ville dans la ville finalement. Et c'est justement confronter ces deux mondes en fait finalement, montrer à la fois le côté très luxueux que pouvait afficher la France et de l'autre côté la vie quotidienne finalement des plus pauvres. Et à côté de ça, c'était greffé dessus donc une histoire à la fois une aventure et en même temps une sorte de thriller avec un meurtrier qui s'en prend donc aux jeunes filles des quartiers populaires. Voilà sans doute encore une fois une sorte de clin d'œil à Jack l'Éventreur, on n'est pas très loin de la période. Hein. Et donc une enquête menée, puisque c'est un roman adolescent, donc une enquête menée par ces Apaches, justement un groupe d'Apaches qui se soucie en fait du fait qu'une de leurs amies pourrait être la prochaine victime en fait de celui qu'on surnomme donc l'ogre.
Finalement, qu'est-ce qui vous intéresse dans un roman de le situer dans une ville, c'est-à-dire en quelque sorte vous pourriez faire un road movie, vous pourriez entraîner vos héros d'aventure en aventure, de continent en continent, et non, vous avez fait le choix, je ne dis pas de l'enfermement, mais en tout cas de la localisation. Qu'est-ce que ça vous apporte, Mathieu Dénin?
Ça permet de donner des repères, pour moi, et de tout de suite sentir l'atmosphère d'un lieu. Quand on se rend compte au travers la distance du temps, que ce soit le 19e ou le 14e siècle, qu'il y a des noms de rues qui sont les mêmes, des quartiers qui n'ont pas beaucoup changé, des monuments qu'on retrouve, on peut plaquer l'imaginaire qui est décrit dans le livre sur cette ville qui existe aujourd'hui et dans laquelle on peut se promener. Et donc, quelque part, laisser comme ça le livre s'imprégner de notre fantaisie quand on retourne sur les lieux qui sont décrits dans le livre.
Et vous, Raphaël Albert, le choix de Paris, parce que c'est la voie du détective, la même façon qu'il y a des détectives, c'est New York.
Non, c'est parce que Ouagadougou c'était déjà pris en fait, donc je n'avais pas tellement le choix.
En amont, elle est en train de m'expliquer que je lui ai déposé une fois, c'est tellement
évident. Pas du tout, non. Paris, parce que c'est certainement une des villes les plus romanesques et les plus romantiques qu'on puisse trouver, hein. Donc ça se pose là comme décor. À la base, j'avais pensé à Nantes, une ville que je connaissais mieux, mais bon, ça parle moins à l'imaginaire collectif, on va dire. Et,
bon. Vous n'aurez pas invité dans ce cas-là, et puis bien.
De surcroît.
Je plaisante, bien sûr. Même question, même punition.
Alors, pourquoi Paris, pourquoi Londres, en fait pourquoi Paris? Parce que vraiment, en fait, le thème des Apaches était le premier moteur, en fait, de l'histoire. Donc, les Apaches, évidemment, liés à Paris, aux fortifications, à ce lieu-là. Et du coup, effectivement, c'était aussi pour l'exposition universelle, parce que ça fait... C'est un formidable décor en fait à exploiter dans l'histoire, puisque sans trop en révéler, le climax, on va dire, du récit se situe au cœur de l'exposition universelle, qui était assez extraordinaire, puisqu'il y avait notamment un trottoir roulant en fait qui survolait toute l'exposition universelle. Donc c'était un lieu que je trouvais à la fois intéressant pour la dimension historique, bien sûr, par rapport à la vision qu'avait la France, par exemple, justement, sur les colonies, sur... Donc, tout ça m'intéressait, et puis, effectivement, parce que c'était un décor extraordinaire à exploiter. Et Londres, parce que, étant donné que c'était un hommage, on va dire, à cette littérature fantastique du 19e, qui est quand même très anglaise pour la plupart, et à Conan Doyle, donc forcément, c'était une évidence, quoi. C'était le cadre idéal pour remplacer les enquêtes de mon détective, en fait.
Jean-Philippe Depote, votre pari, alors, c'est aussi celui du métro, hein, on va pas trop en dire, mais le métro joue un rôle, quand même, dans votre roman.
Oui, donc deux des personnages principaux du roman sont les jumeaux de Fulgence Bienvenue, le grand ingénieur du métro parisien, et... Mais en fait, le métro, donc, déjà parce que c'est un lieu forcément fascinant. En plus, quand on parle du Paris des Enfers, forcément, on s'en va sous la terre et on pense au métro. Et en plus, il y avait ce pied de nez, sans en dévoiler trop sur l'histoire, de terminer à la station Champs-Élysées et être dans les Champs-Élysées 1, entre les anges et les démons. Et voilà, je voulais que l'histoire se termine... à la station Champs-Élysées, donc il fallait à tout prix
Faudra monter dans la rame pour aller jusqu'à la station, mais on y va très facilement, vous verrez en lisant son roman. Dernière petite question sur Jean-Philippe Depote, c'est le métro, mais il y a aussi, ça n'a pas de rapport direct avec Paris, mais c'est une présidente.
Oui.
Dans votre livre, c'est la présidente de la République. Et là, on se dit, ah oui, on ne doit pas être tout à fait dans le monde réel qu'on connaît.
En fait, ça, c'est une fantaisie, hein, comme il y en a beaucoup dans le bouquin. En tout cas, une fantaisie avec l'histoire. C'est sûr qu'au niveau historique, je me suis beaucoup documenté, beaucoup attaché à retranscrire un Paris exact, hein, en termes de décors, des rues de Paris, les personnages, les petits métiers qu'on va croiser dans les rues. Et là, j'ai fait extrêmement attention à ce que je racontais dans le livre, parce que je pense que le lecteur ne peut pas pardonner un auteur de faire vraiment des erreurs, des anachronismes, des choses comme ça sur ces détails-là. Par contre, sur les grands personnages et la grande histoire, quelque part, l'histoire macroscopique, là, je me suis autorisé toutes les plaisanteries. Pourquoi j'ai mis une femme à la tête de la France? Bon, c'est un personnage important dans le livre, donc je ne sais pas si ça avait été un homme, si j'avais réussi... Est-ce que j'aurais réussi à tourner l'histoire de la même façon? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas d'explication, mais je suis content après tout d'avoir fait ça, puisqu'en fait, c'est une façon, dès le deuxième chapitre, et c'est une façon aussi de renforcer le contrat avec le lecteur et de le prévenir dès le début que s'il est un amateur pointilleux de romans historiques, il détourne son chemin, parce que là, on est
parti. Abandonner toute espérance. Bon, on arrive presque à la fin de ce café littéraire, à qui je donne la parole pour terminer, peut-être à celui qui écrit pour la jeunesse, et puis qui est là pour la première fois, mais j'aurais pu aussi proposer, parce que c'est tous les deux, c'est votre première... Ah non, on va vous donner la parole pour finir à tous les deux, allez. C'est votre première venue aux Imaginales, c'est le bizutage. Vous avez 45 secondes pour nous dire quelque chose d'intelligent sur votre roman.
D'intelligence, c'est ça le plus dur en fait.
Le plus difficile.
Disons que ce que j'aimerais dire, c'est qu'avant tout, mon roman, c'est. Enfin, je parle par exemple pour Crine, hein, qui est vraiment dans la thématique là, du coup, des imaginales, qui est vraiment qui mélange un peu tous ces genres, justement. C'est justement, je pense que ce que je peux dire sur ce livre, c'est que c'est avant tout, comme souvent, même s'il y a une dimension historique, même s'il peut y avoir, ça reste du divertissement, et justement, moi, c'est ce que j'aime, enfin, c'est-à-dire que l'écriture, j'essaie de traiter d'autres thèmes, notamment, dans mes romans, il y a souvent des thèmes liés à la discrimination, par exemple, entre que ce soit les quartiers riches, les quartiers pauvres, ou ce genre de choses-là, mais en même temps, justement, ce que j'aime, c'est de faire passer à travers l'aventure, à travers des choses voilà, qui m'ont nourri. Donc ça reste un roman, j'espère en tout cas, qui traduit le plaisir que moi j'avais quand je regardais, quand j'étais enfant, certains films d'aventure à la télévision ou au cinéma, ou quand je lisais justement ces grands classiques ou les romans de Sherlock Holmes. J'ai essayé de retranscrire ce plaisir-là. J'essaie en tout cas que le livre soit vraiment synonyme de plaisir et de... Voilà, et on parlait d'humour, justement, voilà, j'aime bien glisser ça aussi, c'est-à-dire j'ai trois personnages par exemple dans le livre que j'aime beaucoup qui sont des ghouls, nécrophages, donc, comme souvent les ghouls, et qui ont un petit problème puisqu'elles sont propriétaires d'une entreprise de pompes funèbres, ce qui pose des problèmes au quotidien assez compliqués. Et donc j'essaie de mettre des petites notes aussi comme ça d'humour, parce que ça m'amuse aussi avec des personnages un peu décalés.
Raphaël Albert.
C'est pas très bien ce que je peux dire de plus, parce qu'encore une fois, il résume à peu près ma pensée. C'est pareil, je fais une littérature, j'espère, plaisir. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Et je me suis fait rigoler tout seul, comme souvent. Je suis souvent tout seul à rire à mes vannes, hein, mais c'est ça. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Je pense que je vais porter plainte pour plagiat contre Stéphane. Et puis, on se reverra l'année prochaine, je vous dirai les résultats.
Vous voyez, quand il s'est fait inviter, c'est qu'il se plaît. C'est bon aussi, on est toujours ravis quand ils ont envie de revenir. Merci en tout cas à nos quatre auteurs et merci à notre public toujours présent, chaleureux, et on a beaucoup de bonheur à vous recevoir. Vous pouvez Crine donc sur les pilleurs de cercueil, hein, c'est le numéro 1 sur notre salon du livre. Rue Farfadet, là aussi de Raphaël Albert, et le 2 vient de sortir, je ne l'ai même pas encore reçu, j'ai regardé dans Twitter. Jean-Philippe Depote, j'avais montré la version, en tout cas décrite, la version de folio. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir cette très très belle édition dans laquelle la couverture est magnifique. Là, vraiment, il faut féliciter l'artiste. Delon, donc, c'est un très très bel illustrateur. Donc, les démons de Paris aux éditions de Noël, ou la version folio si on est un peu plus fauché. Et puis, Actes Sud, Saltalarello de Mathieu Denain, le roman historique, là, un vrai, un pur, mais aussi un très très beau livre. Tous les quatre, bravo.
Merci.